chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée au chant grégorien. Nous avons aujourd'hui avec nous dans le studio Jean-François Goudesen, qui est chargé de recherche au CNRS, l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes également. Et il est un grand connaisseur de la musicologie médiévale. Aujourd'hui, il va donc pouvoir nous parler du chant grégorien, de son histoire, des différentes écoles, et vous allez découvrir différentes manières d'interpréter le chant grégorien. Donc je souhaite la bienvenue à Jean-François Goudesen. Je le présente peut-être encore un peu plus. Donc il a fait des études musicales au Conservatoire de Lille, orgue, clavecin. Vous avez aussi des connaissances en orgue.
Musique de chambre, musique baroque.
Et vous avez donc obtenu une agrégation d'éducation musicale en 1988. Et puis une thèse à l'université de Tours en 87.
C'est
pour
cela.
Consacrer toutes vos études. Donc j'aime autant que vous puissiez nous parler tout de suite de vos recherches en matière de chant grégorien.
Voilà, oui, je suis musicologue et philologue, enfin une sorte d'archéologue de la musique. La musique est supportée par des textes qui ont des supports dans les manuscrits conservés dans les bibliothèques, dans les archives. Et mon travail consiste à inventorier ces documents, étudier les textes, comparer aux quatre coins de l'Europe et du monde, de façon à avoir une approche vraiment scientifique de la tradition et la transmission de cette musique qui a plus d'un millénaire. Donc c'est vrai qu'on travaille sur une longue échelle de temps. Donc c'est une sorte de travail archéologique. J'aime beaucoup les comparaisons entre les disciplines. Mais cette fois-ci, l'archéologie n'est pas appliquée à des pierres, mais à des documents qui sont à la fois écrits et qui renvoient à du sonore. Voilà, donc c'est un voyage dans le temps tout à fait passionnant. Et donc là, depuis une dizaine d'années, après un travail avec Don Solny à l'abbaye de Solesmes, j'arrive à la fin d'un travail sur l'édition critique du graduel grégorien et notamment les origines et la genèse du chant grégorien, comment il a été fabriqué à l'époque carolingienne. Et donc mon prochain ouvrage s'appellera Gregorius Fabricator Cantus, un Grégoire, fabricateur du chant, où je reprends un peu ce mythe du chant grégorien attribué à Saint Grégoire de façon symbolique pour montrer comment en réalité il s'est constitué à partir de plusieurs centres et il s'est transmis à la fois dans l'écriture et l'oralité d'une façon assez complexe et non pas d'une façon simple, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un rôle très peu important du pape Grégoire. En revanche, une très grande importance des églises romaines et des églises franques aussi, et dans l'espace carolingien de l'Empire, avec les abbayes comme Saint-Denis, Corbie, Noyon, l'Angleterre qui a joué un rôle très important, la Lombardie, le Piémont, bien évidemment Saint-Gall, Metz, qui sont vraiment des foyers importants, mais qui ne sont pas les seuls foyers du chant grégorien. Donc je fais un peu quasiment une contre-histoire du chant grégorien où je démonte un peu ce mythe d'avoir fait du chant grégorien quelque chose qui serait né uniquement à Metz ou à Saint-Gall. C'est beaucoup plus complexe, hein, et voilà, nous en parlerons peut-être un peu plus tard. Et voilà un livre qui devrait sortir l'année prochaine.
Nous sommes très heureux d'apprendre que vous êtes aussi écrivain, ce qui permet à tous les connaisseurs et ceux qui voudraient découvrir vos recherches d'approfondir le sujet. Donc nous savons qu'à Rome, il y avait le chant, qui ensuite était le modèle pour les écoles qui se sont créées à partir du VIe siècle. Ou est-ce que vous avez des connaissances de comment est-ce qu'on a diffusé le chant grégorien au-delà donc de Rome?
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment aujourd'hui on peut reconstruire cette histoire. Le plus important, c'est d'avoir une approche qui soit vraiment le plus scientifique, c'est-à-dire étayée par des preuves. Donc déjà, tout ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire ce qu'on a dit sur l'histoire, même déjà au Moyen-Âge, des gens comme Jean Diacre qui ont écrit la vie de Saint Grégoire, eux-mêmes ont lancé des mythes, des légendes, qui ont une base certainement véridique, mais qui sont en partie des constructions intellectuelles pour légitimer un courant spirituel, politique, idéologique. Enfin, c'est assez complexe, hein, pour asseoir le pouvoir ottonien, par exemple, dans la partie germanique, dans la deuxième moitié du Xe siècle. Donc il y a toute une propagande qui veut que, par exemple, lorsque les ouvrages ont été changés au VIIIe siècle, beaucoup d'auteurs ont dit, voilà, maintenant, il faut recomposer de nouvelles pièces musicales parce que les manuscrits tombent en lambeaux, ils sont en mauvais état, etc. On s'est aperçu aujourd'hui avec l'étude des documents que ce type d'argument est un argument assez secondaire, un peu comme les incendies de cathédrales au XIIe siècle qui se sont multipliés. C'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour la création artistique. Donc ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'évolution de cette création artistique, donc d'une origine qui certes remonte au VIIe siècle, mais qui constamment est reconstruite en permanence. Hein, donc je comparerais un peu, si vous voulez, le chant grégorien à une église cathédrale dont la crypte serait sur un site antique antérieur au christianisme, dont l'abside serait de l'époque carolingienne, une nef romane, un avant-porche gothique, etc. Voilà, quelque chose de très composite que l'on peut démontrer par l'étude des documents. On peut très bien arriver à reconnaître que telle pièce date de telle époque par le nombre de manuscrits qui sont conservés et puis par l'observation du style et de l'écriture de la pièce elle-même. Donc on a une sorte de patchwork, d'une complexité, d'une mosaïque en fait. Voilà. Mais c'est vrai que Rome a été un modèle, mais alors il ne faut pas considérer Rome comme une église monocentrée, c'est-à-dire que l'église du Moyen-Âge n'est pas l'église de la contre-réforme par exemple. C'est-à-dire que les évêques ne sont pas, ils sont nommés par le peuple. Il n'y a pas de conclave ou de concile qui va nommer, etc. Donc c'est pas du tout la même église que cette église de la contre-réforme. Ce n'est pas non plus l'église du XIIIe siècle. C'est vraiment l'église du VIe, VIIe. Les choses sont très très libres. Les gens parlent le latin, mais ils ont aussi leur dialecte proto-roman qui commence à se mettre en place au 8e siècle. Le latin n'est plus une langue parlée spontanément. Donc il y a un tas de dialectes, il y a des cultures différentes, etc. Donc le grégorien, qui est un terme comme le gothique ou comme le roman, c'est une terminologie qui est moderne. Hein, donc on essaye de mettre des cases, des cadres qui sont a priori rationnels, mais sur des réalités qui étaient beaucoup plus compliquées. Voilà, donc Rome, ce n'est pas seulement la ville de Rome, c'est les différentes églises qui composent la chrétienté. C'est Milan, c'est Ravenne, c'est Versailles dans le Piémont, c'est l'église de Lyon, c'est Tours qui a été un centre très important, c'est Canterbury, Winchester, enfin c'est tout un réseau de monastères où il n'y a aucun centre qui a une prépondérance sur l'autre. Même Rome, évidemment, vient en premier plan, mais dans un réseau avec les autres, voilà, une évolution qui se fait en réseau. C'est-à-dire que Rome va apporter des éléments aux Gaules, dans les pays francs, et ensuite les pays francs vont retourner vers Rome des répertoires que les Romains vont récupérer. Donc il y a une sorte d'aller-retour de vase communicant entre toutes ces églises. Voilà. Et on a malheureusement confondu, à partir du moment où il y a eu l'imprimerie avec Clément VIII, à la fin du XVe et au XVIe siècle, la réforme liturgique s'est faite par l'imposition d'un livre qu'on a imprimé et qu'on a dit, voilà, ça c'est la tradition papale, etc. Vous devez... Alors par l'imprimerie, on a pu imposer par ce type de hiérarchie avec un centre qui émet et les autres qui suivent. Or, dans le monde du manuscrit, chaque centre peut très bien avoir un modèle, mais l'adapter à son usage, le modifier, sans qu'il y ait de contrôle vraiment de comité éditorial. Il n'y a personne, il n'y avait pas de censure, rien du tout. Hein. Ça se faisait de façon autonome. On ne pouvait pas écrire n'importe quoi au Moyen-Âge, mais il y avait une très grande créativité, une très grande invention, en même temps que la transmission d'un corpus très ancien.
Est-ce que vous pourriez nous faire goûter une pièce pour illustrer votre propos? Évidemment, il y a du mal, on a du mal aujourd'hui en tant qu'archéologue en musique médiévale de reconstituer la manière dont les chants étaient interprétés. Donc nous avons différentes écoles. Peut-être vous pourriez déjà nous faire découvrir une pièce et ensuite pourra écouter d'autres pièces, peut-être interprétées d'une autre manière.
Voilà, moi je propose d'écouter le chœur de Dein Siddeln, qui est en Suisse, hein, et très intéressant parce que c'est le renouveau du chant grégorien dans les années 70. On redécouvre les manuscrits avec les neumes, l'école de Saint-Gall, etc. Et donc, il y a tout un renouveau du rythme qui dépoussière un petit peu ce chant grégorien du 19e siècle et du début du 20e. Voilà, donc je propose de le comparer ensuite avec d'autres interprétations.
Thank you. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Les moines d'Einsiedeln, M. Goudessin nous a proposé une petite pièce chantée par Solem. Mais même l'auditeur non averti, il a bien, en dehors de la qualité de l'enregistrement, là, datant de...
Avec la direction de Don Gajard, qui est vraiment une grande figure de Solem dans les années 30 jusqu'en 50. Et donc, on est confronté à deux univers sonores, deux traditions liées, bien évidemment, mais très différentes sur le plan du son. Et ce qu'il y a eu entre les deux, c'est qu'on a découvert, on connaissait déjà ces neumes avec des indications précises sur le plan du rythme, mais à Einsiedeln, elles ont été davantage mises en application à la suite des travaux de Don Cardine, qui est un moine de Solem, qui a fait école à Rome et qui a enseigné la paléographie, la sémiologie, pour essayer de trouver une interprétation plus précise, un peu dans l'esprit du mouvement baroque ou du retour aux musiques anciennes, dans un plus grand esprit d'authenticité, d'où une légère évolution dans le style. Et tout cela pour dire qu'il y a plusieurs traditions, déjà au Moyen-Âge, mais même nous, dans nos traditions culturelles d'interprétation, il y a vraiment plusieurs écoles, plusieurs sons, qui sont tous respectables. Je pense que c'est important de le rappeler dans un contexte où la musique sacrée suscite souvent des passions, donc des querelles de chapelle, etc. Et le chant grégorien, comme toutes les musiques sacrées, sont vraiment propices à ce genre de querelles esthétiques, etc., qui sont très enrichissantes, qu'il ne faut pas forcément opposer les unes aux autres, et qu'il faut essayer de comprendre, en fait. J'aime bien le relativisme. J'ai moi-même des convictions, des préférences, bien évidemment, mais j'essaye de les mettre un peu à l'écart pour essayer d'objectiver en disant, voilà, pourquoi interprète-t-on comme ceci, comme cela, et pourquoi le public va préférer telle version à une autre, très souvent parce que ça va lui rappeler un souvenir d'enfance. Quand vous avez entendu un chant chanté d'une certaine manière, indépendamment de son esthétique, hop, comme un plat cuisiné, vous allez préférer forcément ce que vous avez entendu pendant votre enfance et qui ici n'est pas forcément du chant grégorien. Je pense au générique de l'émission. C'est du plein chant musical. C'est des chants qui ont été composés au 14e, 15e, mais surtout remodelés au 19e et 20e avec un son très caractéristique que les gens pensent être du Moyen-Âge. C'est l'idée qu'on se fait du Moyen-Âge, plus que le Moyen-Âge lui-même. Et je rappelle que le mot Moyen-Âge lui-même, comme art roman, comme art gothique, comme chant grégorien, sont tous des mots construits par la modernité pour désigner quelque chose qui n'existait pas au Moyen-Âge lui-même. Donc, c'est important de se poser les questions. Et donc, j'ai amené, par rapport à ça, pour faire évoluer un peu le débat sur l'interprétation du chant grégorien, qui est passionnant, mais c'est des chants de paysans, puisque un musicologue Burnet, qui a fait un voyage en France à la fin du 18e, a circulé dans les campagnes et a entendu les chants des paysans dans les champs, en disant « ça ressemble beaucoup au plein chant et au chant liturgique ». Voilà. Et donc j'ai ramené un chant du Berry, des archives de chants de labour, hein, qu'on chantait quand on retournait les chevaux.
Mais on sait que le chant grégorien, comme il était écouté et qu'il formait l'oreille aussi du paysan qui allait à l'église régulièrement,
voilà.
les gens reprenaient à leur compte ces mélodies. Nous savons que beaucoup de mélodies populaires dérivent du chant grégorien. Donc vous nous avez apporté une pièce chantée par... une chorale ou...
Par un paysan du Berry qui est en train de labourer avec les chevaux dans les années 40, 50, je crois.
C'est tout à fait étonnant d'écouter ce paysan encourager ses bœufs ou ses chevaux. Je ne sais pas comment il a attelé son char.
Voilà, là c'est toute une réflexion sur notre identité. Moi-même qui ai peut-être une généalogie assez compliquée, avec des origines étrangères et européennes, je me suis posé beaucoup la question des origines. Et si on avait fait écouter ce chant sans dire ce qu'il était, je suis sûr qu'on aurait dit qu'est-ce que c'est que ce chanteur arabe ou je ne sais.
Très indien, ça fait très indien.
Voilà, c'est un paysan du Berry. Donc c'est intéressant de se retourner sur ses origines. Et les esthétiques vocales avec tous ces mouvements dans les années 80-90 où on s'est beaucoup tourné vers les traditions orales corses, les traditions grecques, etc. pour essayer de donner à ce chant liturgique occidental dont la tradition est rompue en fait. Il faut bien comprendre que la tradition par rapport aux Grecs par exemple, nous n'avons pas une tradition continue du chant liturgique. Il y a eu des ruptures. Il y a eu les guerres de religion, même déjà au Moyen-Âge, le plein chant au XIIIe, il y a eu de grands changements par rapport au Moyen-Âge. Les guerres de religion, la révolution qui a cassé les maîtrises, etc. Donc la tradition orale s'est perdue, ça se perd très très vite. Il suffit de deux générations, de trois générations, on voit actuellement dans les mutations culturelles aujourd'hui, quand on entend les gens parler le français il y a 30 ou 40 ans, la prononciation n'est plus du tout la même, les intonations. Donc il y a eu beaucoup de ruptures et donc on est forcément obligé de reconstruire les choses. Donc par rapport à tout ce courant avec l'ensemble Organum, avec Venance Fortuna, où on a essayé de faire appel à des chantres byzantins et beaucoup de chantres corses puisqu'il n'y a plus que là où il y a des traditions orales existantes, il y a toute une série d'interprétations qui se sont mises en œuvre, dont par exemple celle-ci de Damien Pueblo.
Thank you.
d'ailleurs d'écouter une pièce chantée par une chorale de Marseille, inspirée des traditions locales encore corse, et où l'auditeur a pu constater
qu'il y a, et byzantine.
Voilà, et qu'il y a un accompagnement vocal.
Absolument, un accompagnement avec l'isone, c'est-à-dire un bourdon qui accompagne, plutôt que d'accompagner le chant à l'orgue, comme on le fait encore beaucoup dans les paroisses, y compris à Solesmes par exemple, on a préféré souligner simplement par un simple bourdon, voilà, la structure modale du chant, comme le font les Grecs dans la tradition du XVIIIe et XIXe siècle. Et ici, donc, on a un disciple, entre guillemets, de Marcel Pérez et de l'ensemble Organum, qui est tout un courant. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même eu une grande cabale autour de ce mouvement. Cette interprétation est venue de façon un peu fracassante. C'est-à-dire qu'imaginer du chant grégorien chanté à l'oriental avec des ornementations, des intervalles qui sont parfois un peu différents, un son, on sent bien que la notion du temps n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait un stage à Conques l'an dernier, la réaction du public était vraiment très divisée. Il y avait des gens, on est bien dans la messe de Requiem ici, me disaient, mais non, je conçois pas qu'une messe de funérailles ait cette splendeur byzantine, ça me dérange un peu. D'autres qui adoraient. Donc on sent que ce type d'interprétation suscite vraiment des réactions assez passionnées d'ailleurs, parce qu'il y a un aspect sensible de la voix, une culture vocale qui est très assez opposée à la tradition. Alors on ne saura jamais comment les gens chantaient au Moyen-Âge, je pense que c'est un leurre d'imaginer de reconstruire quelque chose d'authentique, d'autant plus qu'au Moyen-Âge lui-même on ne chantait pas, il suffisait de parcourir 50 km pour avoir une version différente. Donc il n'y avait absolument pas une manière uniforme de chanter, comme la prononciation des langues, et qu'on est dans un processus de reconstruction. Et là, le sens de cette démarche, c'est de dire, allons voir à Byzance, qui est une tradition qui a évolué de façon parallèle à Rome, est-ce qu'on peut reprendre là pour reconstruire le grégorien ou pas? Ça se discute, ça peut être en partie légitime, mais en partie, il est sûr que les chanteurs francs ne chantaient pas exactement non plus comme les chanteurs orientaux ou grecs. Donc le problème, c'est de savoir que fait-on. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec la tradition que l'on a, et c'est très difficile. On est forcément dans une démarche arbitraire. Donc je voulais rendre compte un peu de ces deux interprétations. Puis il y a un paramètre qu'on a souvent oublié dans le chant grégorien, c'est la part accordée aux enfants. Puisque très souvent, on a l'image d'un chant grégorien chanté par des personnes âgées, dû au vieillissement malencontreux de l'Église, enfin des clercs, etc. Or, c'est une époque où les pueri cantores chantaient dans les maîtrises, dans les cathédrales, etc. Et donc, à Notre-Dame de Paris, on a Sylvain Dieudonné a essayé de réinstaurer cette tradition du chant grégorien chanté par les enfants, qui est vraiment essentielle.
Des voix angéliques, justement.
Voilà, absolument.
Et nous savons qu'à Chartres, à Pâques, on envoyait les enfants, les pueri cantores, sur la toiture de la cathédrale pour que le chant résonne dans toute la ville. Il y avait une tradition d'imprégner quand même le chrétien à l'époque par l'oreille, par l'encens, par les narines, par tous les sens. En tous les cas, c'était déjà très intéressant de découvrir les différentes interprétations.
Oui,
nous avons pu voir que lors de l'interprétation restituée par Solesmes, toutes les voix d'hommes se semblent fondre en une seule voix. Alors que ces autres chorales, on voit différentes timbres des voix.
Tout à fait. Ce qu'on appelle l'hétérophonie. C'est-à-dire on ne cherche pas forcément la beauté du son, l'unité du son, qui est un critère relativement moderne, mais lorsqu'on entend des confréries en Espagne ou chanter, où les voix sont très hétérogènes, différentes les unes des autres, il y a plusieurs possibilités.
Est-ce que vous voulez peut-être nous faire écouter encore une ou deux pièces? Parce que l'émission se termine très rapidement, c'est très passionnant.
Le cœur d'enfant de la maîtrise Notre-Dame de Paris.
Justement, comme ça, nous pouvons redécouvrir les voix angéliques, des voix d'enfants.
Thank you.
Pour terminer, après avoir écouté les magnifiques voix de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, vous nous proposez quelque chose sur le plan un peu plus humoristique.
Tout à fait.
Le Pigorian Chant, voilà, le CD est affublé d'une image avec des petits porcs.
Oui, c'est une invention américaine, mais dans l'esprit de la fête des fous, qui était une fête annuelle, où il y avait un rituel d'inversion, où les enfants prenaient la place de l'évêque, voilà, inversion des rôles, etc. Et dans les cathédrales, donc jusqu'au 15e, 16e siècle, hein, il y avait vraiment les ânes entraient en procession dans les cathédrales, le kyrie était ponctué de ian, etc. Donc on a toute une tradition qui a été refoulée par la suite, interdite dès le concile de Trente et même dès la Renaissance. Et il a fallu attendre Victor Hugo pour redonner juste cette image d'un Moyen-Âge burlesque qui ensuite a donné autre chose avec les Carmina Burana, etc., les moines Gaulières. Et donc il y a toute une tradition de dérision dans la liturgie elle-même autour d'une fête qu'on a appelée fête des fous, fête de l'âne, qui est évoquée dans ce disque humoristique Pigorian Chant.
Merci beaucoup Jean-François Goutsen. Au revoir chers auditeurs.
Porcos cibumque cano venite porci sui sui
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.